Vous écoutez, on lit pour vous.
Les applis Made in Québec, craque pour l'anglais. Un texte de Nathaël Morissette et Stéphanie Bérubé, paru le 8 avril 2024 dans la presse. Choisir un nom dans la langue de Shakespeare pour une entreprise ou une application Made in Québec est une tendance lourde. Il peut s'agir d'une stratégie pour percer à l'étranger, mais est-ce vraiment une bonne décision de marketing? La question divise. Si vous appelez l'Office québécois de la langue française parce que votre téléphone ne montre que des applications au nom anglais, on vous avisera que votre plainte n'est pas recevable. L'article de la Charte de la langue française qui stipule que les commerces doivent afficher en français sur la devanture de leur commerce ne s'applique pas à l'écran d'accueil de votre téléphone. Par contre, dès que vous ouvrez une application offerte au Québec, le service doit être offert en français, comme son site web et ses comptes de réseaux sociaux. Si c'est le cas, l'entreprise respecte le règlement. Lorsqu'elle s'inscrit auprès du registraire des entreprises du Québec, une entreprise doit avoir un nom en français. Libre à elle ensuite de mettre de l'avant la version anglaise tant que le site ou l'application respecte les règlements. Et les raisons sociales en anglais pour des applications, des sites ou des entreprises physiques se multiplient depuis les dernières années, ce qui suscite souvent de vives réactions de la part de nos lecteurs. Beaucoup d'entrepreneurs justifient leurs décisions au nom d'un développement international futur. Food Hero, l'entreprise derrière l'application anti-gaspillage homonyme, porte aussi le nom de Marché Food Hero. Improve, un OBNL qui s'attaque aussi au gaspillage alimentaire, s'appelle également Améliore, selon le registre des entreprises, du moins. Même chose pour la plateforme de location Oui Chalet, qui a comme nom officiel et confidentiel Nature Oui Chalet. Son fondateur, Danny Papineau, admet que le mot « nature » a été ajouté uniquement pour répondre aux exigences réglementaires. Quant à cette dualité linguistique, elle est venue tout naturellement. C'était à un moment où le mot « oui » était beaucoup utilisé par des entreprises comme WeTransfer, WeChat ou WeWork. Toutefois, en ce qui concerne la location de chalets, les lettres WE peuvent aussi être vues comme l'abréviation de week-end, mot couramment utilisé par les francophones, explique Danny Papineau. Un chalet, tu loues ça souvent le week-end, dit celui qui n'a jamais eu l'idée d'adopter le mot cottage dans le nom de son entreprise. Selon lui, le mot chalet sonne très haut de gamme en anglais et est facilement utilisé par les hispanophones qui utilisent le service. L'entrepreneur a reçu certaines critiques au lancement de la plateforme, mais pour l'utilisation francophone du nom. Le Cirque du Soleil est quand même un exemple d'une entreprise qui a réussi à percer à l'international avec un nom français, rappelle Danny Papineau. Le chalet fait partie de la culture québécoise, dit celui qui a tout de même mis la main sur la marque Oui Chalet, O-U-I-C-H-A-L-E-T, mais qui ne croit pas l'utiliser à court ou moyen terme. Le fondateur de Food Hero est de ceux qui croient qu'une entreprise qui a des visées internationales a tout avantage à adopter une raison sociale en anglais. Nous ne sommes pas des gens qui pensent petit, lance tout de go Jonathan Defoy. Personnellement, j'ai toujours eu des compagnies internationales dans le domaine de la technologie. Dès le départ, il n'était pas question de rester confiné au Québec. L'entrepreneur avoue toutefois qu'il a tenté des jeux de mots en français avec le mot « héros » sans succès. Il précise aussi que si son commerce avait eu des points de service physiques au Québec, sa stratégie aurait été complètement différente. Ma position est que quand une compagnie est locale, s'adressant aux Québécois et ayant pignon sur rue, je ne suis pas pour un nom anglais, dit-il. Une bonne stratégie? Ce n'est pas une mince question, répond d'emblée Louis-Félix Binette, directeur général du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On travaille avec des entreprises qu'on appelle de jeunes pousses technologiques à fort potentiel de croissance, explique-t-il. Ces entreprises sont souvent fondées sur un modèle d'affaires qui base ses probabilités de succès sur un marché international. Dans le jargon, on dit « global first ». Ces entreprises-là ne pensent pas d'abord à vendre des trucs dans leur ville pour ensuite prendre de l'expansion dans leur région à l'échelle du pays, puis exporter par la suite. Ces entreprises-là ont un modèle d'affaires qui vise à percer le marché international dès le début de leur commercialisation. Dans cette perspective-là, il y a un souci d'être vendeur à l'échelle internationale. Le choix d'un nom fait partie d'un tas de décisions auxquelles tu dois penser, soutient-il. Monsieur Binette ajoute que dans bien des cas, ces jeunes pousses auront besoin d'investisseurs qui sont parfois établis à l'extérieur du Québec et qui ne parlent pas français. Donc, le nom de l'entreprise fait partie de ce qui permet de séduire rapidement un investisseur, d'attirer son attention. Est-ce que mon nom dit rapidement ce que je suis en train de faire? Dit-il en faisant notamment référence à Lightspeed, une entreprise d'ici qui a développé une plateforme de paiement rapide. Dilué. À HEC Montréal, Claude Ananou, maître d'enseignement au département de management, ne partage pas du tout cet avis. Il s'évertue chaque jour à expliquer à ses étudiants qu'une raison sociale en anglais n'est pas une panacée. C'est une tendance lourde qui n'est pas rationnelle, lance-t-il sans détour. Je ne vois pas l'utilité d'avoir un nom en anglais si ce n'est pas notre nature. Vous vous diluez dans le milieu anglophone. On ne vous repère plus. Vous n'êtes pas vous. C'est dommage. D'un point de vue marketing, je ne suis pas sûr que ça soit pertinent d'agir de cette façon. On me dit toujours que l'anglais, c'est international. Je réponds que l'anglais, comme langue, oui. Mais pas comme slogan. Pas comme marque de commerce. Il cite par ailleurs les succès du Cirque du Soleil et d'IKEA, dont le nom des articles est en suédois. Et que dire de Volkswagen, avec son Das Auto en allemand? À ce chapitre, M. Binette reconnaît qu'un nom en français peut parfois permettre de se distinguer. Mais des fois, ça peut donner un côté un peu terroir. Les investisseurs ne cherchent pas à investir dans des projets du terroir. Ils veulent investir dans des projets qu'ils vont vendre partout sur la planète et qui vont être facilement compréhensibles, souligne Louis-Félix Binette. Est-ce qu'on veut que les entrepreneurs soient des défenseurs de la langue française ou on veut qu'ils réussissent à faire de l'argent, à exporter le génie québécois à l'échelle de la planète? Moi, je suis plus partisan de la deuxième option, ajoute-t-il. Je suis un francophile, mais à un moment donné, en business, c'est le client qui a raison. Pour Mario Polez, professeur émérite à l'Institut national de la recherche scientifique, la question est plutôt de savoir si le fait de donner un nom en anglais ou dans une autre langue est une bonne stratégie de marketing. C'est vraiment au cas par cas, selon lui. L'anglais n'est pas garant de succès, dit-il. On peut faire faillite en anglais comme on peut faire faillite en italien. C'était les applis Made in Québec, Crack pour l'anglais, un texte de Nathaël Morissette et Stéphanie Bérubé, paru le 8 avril 2024 dans la presse.
il faut briser le cycle du saumon chez l'humain. Un texte de Dominique Godin, paru le 25 mars 2024 dans Le Devoir. Les œufs des saumons éclosent en amont des rivières au printemps. Les tacons peuvent passer jusqu'à 6 ans dans ce milieu qui les a vus naître. Puis, une transformation interne les prépare à vivre dans l'eau salée, c'est l'adolescence. À ce moment, l'odeur de la rivière native s'imprègne dans la mémoire des saumonaux. Ils commencent à nager dans le sens du courant et rejoignent la mer où ils vont passer leur vie de jeunes adultes. Quand vient le temps de pondre, les adultes remontent l'exacte rivière où ils sont nés. Les femelles libèrent leurs œufs dans le gravier du lit de la rivière et le mâle vient les féconder. Et le cycle recommence. Beaucoup de petits Québécois naissent dans ces banlieues lointaines où ils passent une bonne partie de leur jeunesse. Ils apprennent à connaître ce coin précis de leurs premières années. Puis, au début de leur vie de jeunes adultes, ils descendent naturellement en ville pour les études ou pour confluer dans les bars. Ils découvrent un océan d'art, de culture et d'activité dans lequel ils baignent pendant plusieurs années. Ils y rencontrent l'âme sœur et les amis, peu à peu, s'effacent devant le travail jusqu'à la grande nouvelle attendue, la naissance d'un enfant. Mais l'idée d'élever leur progéniture en ville les rebute. La première réaction, instinctive, les fait remonter en amont ces grandes autoroutes pour aller donner la vie, par un accouchement aquatique peut-être, là où ils sont eux-mêmes nés. Et le cycle recommence. Plus qu'un dortoir, la banlieue est un incubateur de mauvaises idées. Les enfants n'en ont que faire du jardin du bungalow. Aussitôt que leur âge le leur permettra, ils vont s'évader, affluer vers la ville par tous les moyens. Offrons-leur plutôt une terrasse, un parc urbain et l'effervescence de la grande ville, et ils seront tout aussi heureux. J'en veux pour preuve tous les enfants qui grandissent ancrés dans mon quartier densément peuplé. Toutes les espèces sont intégrées dans une écologie complexe. La vie en banlieue ira toujours à contre-courant des efforts faits pour protéger notre environnement. Tout autant du point de vue financier, l'expansion incessante de la banlieue est une dérive insoutenable. L'intelligence humaine devrait nous inciter à briser ce cycle malsain qui contribue au naufrage de notre milieu de vie. C'était « Il faut briser le cycle du saumon chez l'humain ». Un texte de Dominique Godin, paru le 25 mars 2024 dans Le Devoir.
L'école qui a vaincu le téléphone portable. Un texte de Joanna Slater du Washington Post, paru le 5 mai 2024 dans La Presse. Manchester, Connecticut. En 2022, quand Raymond Dolphin a été nommé directeur adjoint d'une école secondaire du Connecticut, il savait déjà que les enfants n'allaient pas bien. Le problème, c'était les téléphones portables. Les élèves s'en servaient en classe, même s'ils étaient interdits. Les médias sociaux amplifiaient les conflits entre élèves. Dans les couloirs et à la cafétéria, M. Dolphin voyait invariablement des têtes penchées sur des écrans. Alors en décembre, il a fait quelque chose d'inédit. Il les a interdits dans toute l'école. Les élèves et certains parents de l'école Healing à Manchester ont protesté, mais cette expérience produit déjà des résultats aussi profonds qu'inattendus. Délaisser le téléphone portable, c'est comme couper le sucre, dit M. Dolphin. Après quelques mois, on se sent mieux. Ce qui s'est passé à l'école Healing illustre une dynamique qui touche le monde de l'éducation. Des mesures de plus en plus radicales sont adoptées pour réduire l'emprise néfaste d'une technologie omniprésente et infiniment distrayante. des dizaines d'écoles à travers le pays ont conclu que limiter par des règlements l'usage des téléphones était futile. Elles les ont carrément interdits dans tout le bâtiment toute la journée. Cela survient dans un contexte d'inquiétude généralisée quant aux effets délétères des téléphones et des réseaux sociaux sur les enfants. Usage compulsif. Le directeur de la santé publique américaine et le commissaire à la santé de la ville de New York ont émis des mises en garde à ce sujet. Environ un tiers des adolescents américains déclarent être sur les réseaux sociaux presque constamment. M. Dolphin, 45 ans, porte des lunettes rectangulaires et un walkie-talkie à la ceinture. Il a enseigné dès sa sortie de l'université, a fait un détour dans le secteur bancaire, puis est revenu à l'enseignement il y a 10 ans. C'est ces dernières années qu'il a constaté la présence écrasante des téléphones à l'école, dit-il. Lorsqu'un collègue éducateur de la ville voisine de Hartford lui a recommandé une solution, il l'a appliquée aussitôt. Un matin de mars, à 7h50, il s'est rendu à sa place habituelle, près de l'entrée de l'école, pour s'assurer que tout le monde se conformait au nouveau règlement. Quelques instants plus tard, un torrent de 800 élèves, certains turbulents, d'autres endormis, a franchi les portes de l'école. Chacun a glissé son téléphone dans une pochette grise en caoutchouc synthétique verrouillable. Consigne : la pochette va dans le sac à dos où elle doit rester verrouillée jusqu'à la sortie de l'école à 14h45. Imposer ces pochettes, fabriquées par une entreprise californienne appelée Yonder, n'a pas été facile. Ce matin-là, bien des élèves étaient encore mécontents. « J'ai pleuré », se souvient Michael Wilson, 14 ans, quand il a appris qu'il n'aurait pas accès à son téléphone durant la journée scolaire. Il a signé une pétition collée au mur de la cafétéria demandant à la direction de reculer. Tioma Brown aussi était fâchée au début. Avec le temps, elle voit les choses autrement. « On est plus concentré durant les cours », dit-elle. « Aujourd'hui, il lui arrive d'oublier que son téléphone est dans son sac. » Selon des enseignants qui, au début, étaient sceptiques, les pochettes ont transformé la vie scolaire. Dan Connolly, professeur de sciences en 8e année, commençait tous ses cours par le même rappel 6 fois par jour. « Rangez vos téléphones et enlevez vos écouteurs. » Maintenant, la première chose que je dis, c'est « bonjour » et non pas « enlevez vos AirPods », relate M. Connolly. Marchandage sans fin. En fait, l'école Hilling, comme les 3/4 des écoles américaines, n'avait jamais autorisé les téléphones en classe, seulement dans les espaces communs. Mais ce type de politique, si elle est laissée à l'initiative individuelle de chaque professeur, est inefficace, affirme Jonathan Haidt, psychologue à l'Université de New York, qui recommande l'interdiction des téléphones à l'école. Selon Justin Pistorius, professeur de mathématiques à Hilling, l'ancien règlement sur les téléphones entraînait un marchandage perpétuel avec les élèves. Il disait « Pourquoi vous faites ça? Avec la prof de l'année dernière, on avait le droit. C'est vous le zouf. » C'est là qu'intervient Yonder, fondé en 2014, avec ses pochettes à fermeture magnétique qui sont aussi utilisées pour ranger les téléphones portables lors de concerts, de pièces de théâtre et d'examens professionnels. Depuis peu, ses ventes aux écoles explosent. En 2023, le nombre d'écoles américaines utilisant les pochettes Yonder a atteint 2000 selon la porte-parole Sarah Leader. « C'est 2 fois plus qu'en 2022 », dit-elle. De Manhattan aux régions rurales du Texas, des écoles achètent des pochettes et les distribuent aux élèves. À Providence, capitale du Rhode Island, 8 écoles secondaires, fréquentées par 4 500 élèves, les ont imposées. Vous écoutez « L'école qui a vaincu le téléphone portable », un texte de Joanna Slater de Washington Post, paru le 5 mai 2024 dans la presse. Retour en présentiel post-COVID-19. Pour certains éducateurs, ces pochettes étaient une solution du désespoir. Au retour en classe après la pandémie et les cours en virtuel, la relation des élèves avec leur téléphone avait radicalement changé, explique Carol Cruiser, alors directrice de l'école secondaire de Chicopee, dans le Massachusetts. Au lieu de seulement jeter un coup d'œil à l'heure du midi, ils regardaient des vidéos YouTube en classe et refusaient de ranger leur téléphone. Les enseignants étaient aux abois. Madame Cruiser a imposé les pochettes Yonder au printemps 2021. Je me demandais si ce serait mon suicide professionnel, se rappelle Madame Kruger, 55 ans, aujourd'hui directrice adjointe du conseil scolaire de Chicopee. C'était trop important pour faire autrement. Aujourd'hui, l'utilisation des pochettes fait tache d'huile. Les conseils scolaires voisins les ont adoptés et le gouvernement du Massachusetts les subventionne depuis l'automne dernier. Solitude, dépression, distraction. Nous savons que ces téléphones créent au mieux une habitude et au pire une dépendance. Et leur lien avec la dépression et la solitude est de plus en plus clair, résume la psychologue Susan Lin, chargée de cours à la faculté de médecine de Harvard et autrice de « Who's Raising the Kids? » Qui élève les enfants? Alors, pourquoi laisse-t-on entrer ça à l'école? Se demande la psychologue Susan Lin, qui enseigne à la faculté de médecine de Harvard. Le projet de M. Dolphin a obtenu le soutien enthousiaste du directeur et du conseil scolaire. À l'automne 2023, l'école Healing a payé 31 000 $ pour les pochettes. Parents et élèves ont été plus difficiles à convaincre. Les parents avaient trois grandes objections. Certains s'inquiétaient de ne pas pouvoir joindre leurs enfants en cas d'urgence. Quelques-uns, dont les enfants font de l'anxiété, souhaitaient qu'ils conservent leur accès à de la musique ou à des applications de méditation. D'autres trouvaient simplement pratique de pouvoir contacter leurs enfants pendant la journée. L'école a rappelé aux parents qu'il y a au moins un téléphone fixe dans chaque classe. De plus, les enseignants conservent leur téléphone et pourraient appeler le 911 si nécessaire. Enfin, ces pochettes ne sont pas des coffres-forts. Elles peuvent être ouvertes en cas d'urgence, a fait remarquer M. Dolphin aux parents. Dans le pire des cas, une tuerie à l'école. La consigne de sécurité est de se cacher et rester silencieux, a ajouté M. Dolphin. L'idée même que chaque enfant téléphone à ses parents est exactement le contraire de ce qui est prescrit. Pour la poignée d'élèves utilisant leur téléphone pour gérer leur anxiété, l'école Healing a mis en place un plan de sevrage. Ils pourraient se rendre dans un bureau de l'école où un responsable déverrouillerait leurs pochettes. Cet enjeu a complètement disparu après quelques semaines. Quant aux parents qui voulaient pouvoir appeler leurs enfants pour prévenir, par exemple, qu'ils passeraient les chercher plus tard, ils ont dû s'y faire, dit M. Dolphin. Ils peuvent appeler l'école qui transmet le message. De même, les élèves peuvent se rendre au bureau s'ils doivent joindre leurs parents. Quand c'est arrivé, certains élèves n'avaient jamais utilisé un téléphone filaire. Effet secondaire positif. L'interdiction a eu des effets bénéfiques inattendus. Les élèves coordonnant des séances de vapotage, c'est interdit, dans les toilettes, terminé. AirDrop pour partager des photos inconvenantes en classe, terminé. Conflits attisés par les médias sociaux à l'école, terminé. Selon M. Pistorius, le professeur de mathématiques, les pauses pour aller aux toilettes sont plus courtes. Le trajet n'est plus l'occasion de passer du temps sur son téléphone. 4 mois après l'interdiction, la plupart des parents semblent s'être fait à l'idée des pochettes ou même les apprécier. Tant qu'il existe des plans en cas d'urgence, un téléphone de l'école facilement accessible, par exemple, les pochettes me conviennent parfaitement, a dit Donary Brown, dont la fille Chioma est en 8e année. À la fin des classes, les élèves se dirigent vers les sorties où les autobus les attendent. Près de chaque sortie se trouve une borne de déverrouillage au mur où on peut ouvrir sa pochette d'un simple clic, grâce à un aimant qu'un membre du personnel met dans chaque borne quand la cloche sonne. Lors de la visite du poste à l'école Healing, une bonne moitié des élèves montaient dans l'autobus sans s'arrêter à la borne de déverrouillage. L'école ne se fait pas d'illusions. Ce système n'est pas infaillible, dit M. Dolphin. Tous les élèves mettent-ils leur téléphone dans la pochette? Bien sûr que non, dit-il. Nous ne sommes pas naïfs. Mais les élèves savent que sortir leur téléphone entraîne une retenue. Quand les élèves sont en groupe, la pression sociale fait dire aux élèves qu'ils détestent les pochettes, dit M. Dolphin en riant. Mais quand on les prend individuellement, c'est différent. De nombreux élèves lui ont dit qu'ils se font plus d'amis. Ils pensent aussi que l'angoisse dans laquelle vivent les enfants, ils miment une personne, les yeux hagards, tête penchée vers un écran, a diminué. Par ailleurs, selon des élèves, la disparition des téléphones semble faire revivre quelque chose d'ancien. Serenity Erezo, 14 ans, avait l'habitude de regarder TikTok ou d'écouter de la musique après avoir terminé ses devoirs. Le temps libre est un brin plus ennuyeux à présent, dit-elle, mais les élèves s'adaptent. On trouve des sujets de conversation. On se débrouille. Gabe Silver, lui aussi en 8e année, est d'accord. À l'arrivée des pochettes, tout le monde était malheureux et personne ne se parlait, dit-il. Maintenant, la différence s'entend au repas du midi et dans les couloirs. C'est plus bruyant. Les élèves se parlent davantage, face à face, en personne, explique Gabe. Et c'est un aspect crucial de la croissance. Certains élèves n'avaient pas réalisé à quel point le téléphone nuisait à leur concentration. Nicole Jasowski, 14 ans, respectait l'ancienne consigne qui interdisait seulement le téléphone en classe. Mais même dans sa poche, il était source de distraction. Son téléphone vibrait de 5 à 10 fois par jour, chaque notification étant une tentation de regarder. Ces jours-ci, tout le monde est plus attentif en classe, dit-elle. Et, en fin de compte, être séparé de son téléphone durant la journée n'est pas le drame que certains appréhendaient. Les gens pensaient « Oh mon Dieu, je vais rater tellement de choses », a déclaré Nicole. On ne rate rien du tout. Rien d'important ne se passe en dehors de l'école. C'était « L'école qui a vaincu le téléphone portable », un texte de Joanna Slater du Washington Post, paru le 5 mai 2024 dans La Presse.